Le journal était présenté par Oana Favenec, que l'on retrouve à 9h. Bonjour à toutes et à tous.
Il me suffit de te voir. Je te regarde et je vois immédiatement un journaliste qui va me dire qu'il a une intuition.
J'ai vérifié certains
points. Veux-tu savoir ce que je pense des journalistes qui ont des intuitions?
This is Bob Woodward of the Washington Post.
New York Herald Tribune.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources. Et bien sûr, on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources.
Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. Vous les entendez partout, partout dans le monde, dès qu'il se passe quelque chose d'important, de dramatique. C'est l'actualité, l'événement qui va occuper toute la place ou presque dans les journaux. On veut savoir ce qui se passe, alors il faut partir tout de suite parce qu'il y a un massacre, une horreur au Kenya, une catastrophe terrible au Népal parce qu'il y a la guerre et qu'on se bat en Irak. Comment prépare-t-on ce genre de départ en mission? Comment transmettre ces reportages dans un pays ravagé par un tremblement de terre? Quelle sécurité? À qui se fier dans un pays en guerre? Irak, Kenya, Népal, retour de mission. On en parle ce matin dans le secret des sources avec nos trois invités, trois femmes, grands reporters à Radio France. En studio, Claude Guibal, chef du service étranger de France Culture, bonjour.
Bonjour.
Claude Guibal, vous rentrez du Kenya, un pays traumatisé par l'atrocité de Garissa et la chasse aux étudiants catholiques. En duplex au téléphone, Alice Serrano, grand reporter à France Info. Bonjour Alice.
Bonjour.
Alors vous venez de rentrer du Népal, où un tremblement de terre le 25 avril dernier a fait, selon un dernier bilan, près de 8000 morts et des dizaines de milliers de blessés. Et en cours d'émission, nous rejoindrons Vanessa Descoureaux, qui sera en duplex avec nous de Bagdad. Vanessa Descoureaux, grand reporter et spécialiste défense à France Inter, qui nous dira comment on travaille aujourd'hui en Irak. Nos deux regards extérieurs dans le secret des sources, Mariette Darigrand, sémiologue, et Thibaut Henton pour les images et le web. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous.
Dans les coulisses de l'émission, Vincent Abouchard, Mathias Mégy, avec aux manettes aujourd'hui Nicolas Delmas. Le clin d'œil de l'émission sera signé Yacine Bouzard et nous rejoindrons également Quentin Dickinson, correspondant à Bruxelles. C'est la journée de l'Europe aujourd'hui. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus sur notre site franceculture.fr. N'hésitez pas à nous écrire. Vous êtes chez vous sur France Culture et dans le secret des sources.
Actualité internationale au Kenya. Le bilan de la fusillade perpétrée sur le campus universitaire de Garissa s'est encore alourdi. Au moins 140 personnes, en grande majorité des étudiants, ont été tuées lors de cette attaque revendiquée par les islamistes somaliens d'Al-Shabaab.
C'est un carnage que découvrent les policiers quand ils pénètrent dans le campus. On compte 147 morts et de nombreux blessés.
Tikrit, ex-fief de Saddam Hussein, n'est plus que ruine et sang. Une victoire arrachée aux djihadistes sans qu'il soit possible d'en connaître le véritable coût humain et économique.
Bonsoir à tous, à la une de l'actualité ce soir, le Népal frappé en son cœur par un puissant séisme. Routes et immeubles se sont effondrés, Katmandou est ravagé, l'état d'urgence a été décrété.
Le centre-ville de Katmandou n'est plus que poussière et gravats. Les fragiles habitations de briques et de bois n'ont pas résisté à la violence du séisme.
Le secret des sources.
Voilà extrait des titres des journaux télévisés de France 2, France 24 et France 3 lors de l'attaque de l'université de Garissa au Kenya, la prise de Tikrit en Irak et lors du tremblement de terre au Népal. Alors, le 25 avril dernier, il y a 15 jours tout juste, un puissant séisme frappe le Népal et Katmandou. On mesure très rapidement la puissance de ce tremblement de terre. Alice Serrano, vous allez partir pour couvrir cette catastrophe. Comment se prend la décision le samedi 25 avril ?
C'est une décision qui s'est prise assez rapidement, finalement. Alors, il faut dire déjà qu'on a une configuration de week-end, hein, donc tous les rédacteurs en chef ne sont pas à la radio. Mais très rapidement, on a vu que le bilan augmentait, s'alourdissait. Et rapidement, Grégory Phillips, qui est le directeur de l'information de France Info, m'a demandé de partir. Ça, c'était à l'heure du déjeuner. Et à 22h, j'étais dans l'avion. Départ pour Katmandou, en pensant arriver le dimanche matin, en fin de matinée.
C'est un voyage de combien d'heures, du coup, Alice ?
Alors, normalement, ça devait être un voyage de 17 heures et ça s'est transformé en voyage de 24 heures.
Et on va écouter votre première intervention sur France Culture dans le journal de 8 heures le 27 avril.
De nombreux bâtiments se sont écroulés, notamment à Katmandou, la capitale. Katmandou, où l'on retrouve Alice Serrano, envoyée spéciale sur place. Katmandou, où l'aide humanitaire manque cruellement pour l'instant.
Oui, parce que c'est tout un périple finalement pour venir jusqu'ici. Quand nous sommes arrivés, nous, au bout de 24 heures, sur le tarmac de l'aéroport de Katmandou, nous avons vu quelques avions, les premiers avions humanitaires arriver sur place. Ils sont turcs, chinois, pakistanais, indiens, le ventre ouvert. Et on sortait les cargaisons donc de leur ventre, des grosses caisses, des gros sacs en toile emplis d'aide d'urgence avec une seule personne de l'ONU pour les réceptionner à l'aéroport et après les dispatcher en ville selon les besoins. Mais vous savez, ici, dans la vieille ville où nous nous trouvons, l'une des parties finalement les plus touchées de Katmandou à cause de la fragilité des constructions des maisons en torchis, ici, dans cette vieille ville, nous n'avons pas vu d'humanitaire, pas de distribution d'eau, pas de nourriture, ni de la part des associations, des ONG, ni de la part des autorités. Personne ne nous aide, a déploré un professeur tout à l'heure, un professeur de collège qui a vu sa maison s'écrouler, les larmes au bord des yeux. Il dénonce ces autorités qui ne les n'aident pas, qui ne viennent pas à leur rescousse. Du coup, eh bien, c'est le système D, système de la débrouille pour des centaines de rescapés qui trouvent refuge dans ce parc où nous sommes installés. Ils ont passé la nuit depuis deux jours, ils passent des nuits sous des tentes. On voit des familles ici qui improvisent des réchauds pour en faisant cuire la nourriture qu'ils trouvent. Donc c'est le système D, un système D qui ne peut durer qu'un temps ici, et on place beaucoup, beaucoup d'espoir dans cette aide humanitaire.
Voilà, pas de secours où ils sont en train de s'organiser, les gens sont seuls. Quelle est l'image qui vous frappe en arrivant devant cette catastrophe, Alice ?
Ce qui est assez frappant quand on a commencé à arriver dans la vieille ville, c'est justement ce grand jardin public avec des tentes, des bâches en plastique à perte de vue sous laquelle se sont retrouvés tous les rescapés de la vieille ville de Katmandou, se sont réfugiés tous les rescapés de la vieille ville de Katmandou, des habitants qui sont partis avec rien, qui sont partis avec leurs habits, et puis voilà, dans ces cas-là, faut partir en deux minutes et ont pas le temps ou bien ne peuvent pas rentrer chez eux parce que leur maison s'est effondrée, ou bien ne peuvent pas rentrer chez eux tout simplement parce qu'ils ont peur justement de la fragilité maintenant de leur maison. Ils ont peur que d'un instant à l'autre leur maison s'écroule. Donc c'était ça, cette première image, c'était de voir toutes ces tentes à perte de vue, toutes ces bâches finalement, ces tentes de fortune, ces bâches en plastique à perte de vue, puis ces familles un petit peu désœuvrées, voilà, qui attendent une aide, qui attendent la nourriture à boire, parce que encore une fois, elles sont vraiment parties sans rien, juste avec leurs habits, puis parfois deux trois essais personnels. Et ça, c'était vraiment cette première image qui a été assez frappante.
Alice, vous dormez avec les gens dehors? Comment vous êtes installée?
Alors nous, la première nuit, on a eu de la chance, on a dormi dans le lobby d'un hôtel, puisque nous n'avions ni tente ni duvet, puisqu'on n'avait pas nos bagages, donc on a dormi dans le lobby d'un hôtel, c'est-à-dire sur les tapis, on a pris les couvertures et les couettes des lits, et on a dormi à même le sol. Voilà, on pouvait pas dormir dans les chambres puisque l'hôtel avait peur que voilà, qu'il puisse y avoir des répliques.
Et il y a des répliques à ce moment-là, il y a beaucoup de répliques.
Voilà. Oui. De toute façon, d'ailleurs, dans cette nuit-là, il y a eu une réplique, hein, une réplique où, vous savez que les gens sont complètement affolés, sont sortis le plus rapidement possible. C'est la première fois que je vivais une réplique d'un tremblement de terre, et c'est vrai que c'est assez bizarre, quoi. C'est assez effrayant, en fait, parce qu'on entend un bruit, un genre de bruit, un grondement, et puis après tout commence à bouger. Voilà. Mais le temps que moi je me sois rendu compte que c'était une réplique d'un tremblement de terre, ça s'était déjà calmé. Mais c'est assez étonnant comme sensation. Et en effet, nous avons vécu plusieurs répliques comme ça tout au long de la semaine. Il y a plusieurs centaines de répliques, dont deux, trois grosses répliques. Notamment une réplique que j'avais vécue dans la vieille ville où, pareil, j'étais assise par terre juste après un direct. Et là, on sent le sol qui commence à trembler sous ses fesses. Ça fait une impression quand même assez désagréable puisque finalement, on ne peut pas maîtriser. On sent qu'on est impuissant.
Et pour vous ravitailler, Alice Serrano, vous frappez à la porte de l'ambassade de France à Katmandou ?
Alors non, pour nous ravitailler, il y avait quelques magasins d'alimentation ouverts puisque le gouvernement avait demandé expressément aux magasins d'alimentation de rester ouverts. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Il y avait quelques magasins d'alimentation qui étaient ouverts, qui pouvaient vendre donc des bouteilles d'eau et des biscuits. Il n'y avait pas grand-chose, hein, pour être tout à fait honnête. Mais au moins, c'était strict minimum et ça permettait et aux habitants et à nous, journalistes, de pouvoir manger voilà, au moins pendant les 2-3 premiers jours.
Alors il y a Katmandou, Alice, mais il y a aussi les villages isolés, coupés du monde. On écoute votre reportage à Passe-Langue.
Au bout d'un chemin de terre qui sillonne une vallée luxuriante, un champ de ruines, des pierres ocre, de la tôle ondulée, des poutres, voilà ce qui reste de Passelang aujourd'hui. Impossible de déterminer l'emplacement de chaque maison. Au milieu des gravats, une petite cahute en bois bricolée par un voisin abrite la famille Katam. Le fils, Kumar, a perdu son épouse enceinte. Sa fille de 6 ans, elle, est blessée. « Ma fille a des lésions au crâne », indique le militaire aux yeux embués. « Elle a 13 points de suture. Elle ne voit pas bien de l'œil droit. C'est un voisin qui nous a aidés à la sortir des décombres. Il l'a portée jusqu'à la route, puis il l'a emmenée sur la moto à Gorkha. Et là-bas, une ambulance l'a prise en charge jusqu'à l'hôpital, situé à 3 heures de route d'ici. » L'isolement de Passelang complique considérablement les secours. Ce sont les villageois voisins qui ont prêté main forte, témoigne Mine. Ils nous ont aidés à sortir les corps des décombres, indique l'une des belles-sœurs de Kumar. Le lendemain, ils nous ont aidés à extraire nos affaires, les vêtements, la nourriture, les matelas, les couvertures enfouies sous les gravats. Ils nous ont aussi apporté des biscuits et des nouilles. On n'avait plus rien à manger. Ici aussi, on critique l'inaction des autorités.
Voilà, Passelang, un village par terre, tout proche de l'épicentre du séisme. Alice Serrano, qu'est-ce que vous trouvez sur place? Les gens sont seuls et il y a une grande solidarité?
Voilà, grande solidarité, puisque les villageois n'ont pas vu l'ombre d'un militaire, d'un homme politique, même d'un humanitaire, parce que là-bas, ni les secouristes, ni les associations humanitaires n'ont pu encore se rendre dans ces villages isolés, puisqu'ils sont inaccessibles par la route. Donc il faut arrêter sa voiture, puis après marcher. Donc, c'est ce que nous avons fait, nous pour rejoindre Passelang, nous avons marché une demi-heure, trois quarts d'heure. Donc en effet, c'est la solidarité des autres voisins. C'est vrai que nous, quand on est arrivé à Passelang, ce qu'on a découvert, c'est un champ de ruines, vraiment, il restait 3 maisons debout sur les 26 bâtisses et cette famille et plusieurs autres villageois qui vivaient donc sous un petit cabanon qui avait été construit justement par les voisins. Les voisins qui, dès le départ, ont aidé ces villageois à sortir les blessés et les corps des décombres, qui ont aidé également les villageois à les ravitailler, donc qui leur ont donné à manger, qui leur ont donné à boire, qui leur ont également apporté des marmites pour pouvoir cuisiner, par exemple, des habits, des matelas pour pouvoir dormir même dehors, et qui leur ont apporté leur aide et leur réconfort aussi, surtout pendant une semaine, parce que ces habitants, nous, quand nous sommes arrivés, ce qui leur manquait, c'était donc tout l'aspect matériel, mais également le fait juste de ne pas avoir été réconforté, que personne ne soit venu, au moins pour leur dire, bon, bah voilà, on voit ce qui se passe, on va vous aider, et ça, c'est vrai, c'était vraiment assez fort, et c'est ce qui ressortait, en fait, de notre rencontre avec ces habitants, c'est qu'ils se sentaient complètement désœuvrés, esselés, laissés pour compte finalement.
Alors Alice, vous restez avec nous. Mariette Darigrand, notre sémiologue très écoutée du secret. Mariette, un terme est en train d'émerger pour qualifier le journalisme de catastrophe, mais le mot se cherche encore.
Oui, exactement. On est devant, peut-être pas tout à fait une nouveauté, parce qu'il y a déjà eu des tremblements de terre ou des catastrophes écologiques, mais devant quelque chose dont on pense, en particulier avec le climat, que effectivement ça peut monter. Alors en France, nous disons, commençons à dire journalisme de catastrophe. Les anglo-saxons, qui ont toujours une longueur d'avance sur ces questions, il faut les écouter là-dessus, ils disent « disaster journalism », c'est-à-dire, ils emploient ce beau mot de désastre, hein, mais qui là, bien sûr, est un sens terrible. Et c'est peut-être plus intéressant que catastrophe, parce qu'en effet, le désastre est climatologique de fait, c'est l'astre négatif. Donc, pour les catastrophes écologiques en particulier, il me semble que c'est assez adapté. On va voir si nous le francisons d'une certaine façon. Enfin, c'est un mot latin, puis italien, qui passe en français et qui ne passe en anglais que dans l'anglais médiéval. C'est assez récent. Donc l'anglais parle latin, là.
Disaster, désastre, désir. Ah, ils voilà. Ont la même racine, vous disiez.
Oui,
vous
c'est disiez. Le mot désir que nous avons beaucoup développé en français, en anglais aussi d'ailleurs. C'est la même idée d'astre. Hein. C'est le sidus qui donne astre. Et avec un préfixe différent. Donc si le préfixe est positif, desiderare, on désire, hein, parce qu'on se relie à l'astre par la mémoire. Vous désirez quelqu'un qui vous rappelle quelque chose de très intense. Mais si le préfixe est négatif, comme dans disorder ou disaster, eh bien, à ce moment-là, l'astre devient négatif, c'est le désastre.
Alors, Alice Serrano, beaucoup de sites historiques et de trésors archéologiques ont également été détruits. On va écouter votre reportage dans les cités de Bhaktapur, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Ça, c'est la statue principale du temple, nous dit le responsable d'une équipe de la municipalité venue déblayer les décombres. Du doigt, l'homme nous montre une tête de Shiva en pierre qui émerge d'un tas de gravats. Une fois sorti, on va confier la statue au département d'archéologie qui la placera en lieu sûr. C'est la troisième pièce que l'on trouve intacte sur ce site. En tout, il y en a six. Du temple, il ne reste que le socle en brique. Maes est guide culturel, ce petit homme aux yeux rieurs connaît bien Bhaktapur. Il découvre avec nous l'étendue des dégâts. Sur la fameuse place royale de Durbar Square, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, le palais tient encore debout, mais les temples, eux, sont en ruine.
Et regardez par terre, vous avez beaucoup de belles choses. Regardez les lions et regardez voilà, le poutre en pierre, sculpté. Ça fait très mal de voir ça, parce qu'on a une habitude de voir beauté de ville. Et maintenant, on voit plus ces beautés.
La beauté, celle de ces fameux bâtiments en briques rouges et en bois sculptés, datant pour certains du XIVe siècle. 1500 militaires et policiers protègent la ville des pillages. Il y a quelques jours, un touriste a été arrêté avec une cloche en bronze dans son sac.
Ali Serrano, combien d'heures de sommeil avez-vous pu avoir pendant ce reportage d'une dizaine de jours ?
3 heures de sommeil en moyenne par nuit.
Et on arrive à travailler comment avec 3 heures de sommeil par nuit ? On tient avec l'excitation
Oui, c'est ça, c'est l'adrénaline finalement qui nous tient. En fait, faut surtout pas avoir de moments de répit, parce qu'autrement, après, c'est beaucoup plus difficile. Finalement, je me suis rendu compte qu'il valait mieux rester 10 jours comme ça, tenu par l'adrénaline, plutôt que des moments un petit peu très intenses au début, puis après une pression qui se relâche. Voilà, après, la pression elle s'est relâchée dans l'avion, et tant mieux.
Ali Serrano, qui rentre du Népal, vous étiez en compagnie de Laurent Groux, technicien de reportage de Radio France.
Le secret des sources, Frédéric Barrère.
Tiwenton, les réseaux sociaux ont joué un rôle important durant ce tremblement de terre. Des familles ont utilisé Facebook et Google pour lancer des avis de recherche pour leurs proches dont ils étaient sans nouvelles.
Oui, c'est cela. Google et Facebook ont relancé ces outils qui avaient déjà été mis en place en Haïti en 2010 et pour d'autres catastrophes depuis. Côté Google, donc l'outil s'appelle Person Finder, trouver quelqu'un, une petite application qui proposait 2 options. 1, je suis à la recherche d'un proche, ou 2, je détiens des informations sur quelqu'un, une liste, donc également disponible en simple fichier texte, donc accessible hors connexion, plus commode dans un pays où les smartphones sont encore peu utilisés, avec le nom, les caractéristiques physiques, l'adresse et parfois les coordonnées de la personne recherchée ou de celle ayant indiqué disposer d'informations sur un disparu. À l'heure où je vous parle, cette liste contient encore près de 8000 fiches, mais Google n'a pas communiqué sur le nombre de gens ayant utilisé l'outil. Côté Facebook, sont près de 7 millions de personnes qui auraient utilisé l'interface nommée Safety Check, en anglais comprendre contrôle d'absence de danger. Safety Check a été conçu par des ingénieurs japonais de Facebook dans la foulée du séisme de 2011. En gros, Facebook géolocalise les utilisateurs de la plateforme présents dans la zone de la catastrophe dans un rayon de 250 km. Incluant donc en l'occurrence certaines zones indiennes et chinoises, puis leur envoie un message en demandant si tout va bien pour eux, permettant ainsi d'informer ou non leur entourage. La différence avec l'outil de Google est que celui de Facebook se veut plus privé, avec toutes les réserves que ce terme peut avoir à l'heure du numérique bien sûr, et qu'il s'adressait uniquement à ceux présents sur la plateforme et disposant d'une connexion internet sur leur mobile dans un pays, le Népal, où je le répète, l'internet mobile n'est pas très développé et la présence de Facebook plus faible qu'ailleurs, 13% de la population totale contre 50% en France. Par exemple, tout ça, sachant qu'en plus, Ali Serrano le disait, les infrastructures de télécommunication ont été fortement perturbées par le séisme.
Mais ce faible taux pourrait bien augmenter assez vite.
Oui, car Facebook est un empire et en tant que tel, il ne veut que s'étendre. Son 1,5 milliard d'utilisateurs, 1,5 milliard quand même, on la sent bien là, la mondialisation, dont près d'1 milliard y sont actifs quotidiennement, qui s'échange 45 milliards de messages chaque jour. Tout ça ne satisfait pas Mark Zuckerberg. Il a donc lancé en août 2013, notamment chez le voisin du Népal, l'Inde, un projet tout simplement intitulé internet.org, un projet pour connecter ou plutôt facebookiser les 2/3 de la population mondiale encore dépourvue d'internet. Projet doublé d'une application qui donnerait accès à un nombre limité de sites web, dont Facebook au premier chef évidemment, à des gens qui n'ont pas les moyens de payer d'abonnement. Pour cela, Zuckerberg a même annoncé constituer une flotte de drones, de lasers et de satellites pour connecter les pays en développement. Bon, il se trouve que les choses ne se passent pas aussi facilement que prévu pour le jeune patron du réseau social, malgré le soutien en Inde du Premier ministre Narendra Modi, mais je vous raconterai ça un autre jour.
Merci Thibaut Henton. Claude Guibal, qui voyage beaucoup aussi, et pas toujours vers des destinations romantiques. Claude Guibal, vous rentrez du Kenya, où vous étiez un mois après le massacre de l'université de Garissa. Plus de 140 étudiants catholiques chassés et assassinés dans les locaux de leur université par les chebabs, des scènes d'horreur absolue.
Les femmes ont sorti leurs chapeaux et leurs robes de soie, mais il faut quitter les voitures et marcher dans la boue pour laisser les gardes de sécurité inspecter les véhicules de ceux qui viennent assister à ce mariage dans une église pentecôtiste de Nairobi. Passer sous le portique, vérifier les identités, le révérend David Odinge s'en excuse. La maison de Dieu n'est plus aussi ouverte qu'elle était. Ici comme ailleurs, on se méfie de tout le monde. Les attaques contre les chrétiens au Kenya n'ont pas commencé avec celle de Garissa. Cela fait déjà plusieurs années que des églises sont attaquées, que des grenades sont jetées sur les fidèles.
Malheureusement, ces gens qui tuent les chrétiens s'identifient comme musulmans. Et ça met la pression sur les responsables chrétiens. Et ça nous force à reconsidérer la nature de nos relations avec les responsables musulmans. C'est difficile de faire comme si rien ne se passait. Ils ne tuent pas n'importe qui. Ils tuent des chrétiens.
Voilà, le traumatisme, la peur, la méfiance sont très présents. Il y a des portiques de sécurité devant les églises en ce moment au Kenya.
Il y a des mesures de sécurité devant les églises, devant tous les bâtiments publics, devant les restaurants, devant les malls, devant les magasins. On vous contrôle partout, on contrôle les véhicules, des hommes passent en vérifiant sous les voitures, on regarde le coffre de la voiture. Si vous rentrez, comme c'était mon cas, avec un magnétophone de reportage, avec un agra, on va vous demander le numéro de série du Nagra, de façon à vérifier en sortant du bâtiment si c'est bien le même appareil que vous transportez. Mais ces mesures, elles sont essentiellement cosmétiques.
Pour pas que vous l'ayez laissé avec
une bombe, dedans, voilà, hein. Avec un explosif dedans. On laisse son nom, c'est un papier d'identité, mais tout ça, c'est semble finalement assez cosmétique parce que il se trouve que le numéro de série de mon Nagra a été mal relevé. C'était pas le numéro de série et on se rend bien compte que ces mesures sont à l'image de la gestion sécuritaire du Kenya actuellement, c'est-à-dire un pays qui n'est pas formé à cette menace terroriste hors norme, qui l'a trop souvent minimisée. Il faut se souvenir que 2 jours avant l'attaque de Garissa, des gouvernements étrangers comme la Grande-Bretagne avaient fait état de menaces précisément sur le comté de Garissa, sur Mombasa, etc., en disant aux voyageurs d'éviter de se rendre dans cette région. Ces menaces avaient été une fois de plus rejetées par le gouvernement kényan, qui voyait là une ingérence insupportable de la communauté internationale, et 48 heures plus tard, il y avait donc 148 morts dans cette université.
Alors la ville de Nairobi est réputée comme l'une des plus dangereuses au monde. On va écouter votre reportage dans le quartier d'Eastleigh. Et là, il faut être très prudent également. C'est un coupe-gorge.
Sur la chaussée boueuse, devant la madrassa El Alami, des piles de chaussures d'enfants colorées. Dans l'école coranique, les enfants chahutent, entassés sur le tapis. Derrière son bureau d'écolier, une badine dans la main, le cher Ibrahim pince imperceptiblement la bouche lorsqu'on lui demande de parler de la présence des chebabs à Eastleigh. Les gens disent que Eastleigh s'est radicalisé, mais je n'en sais rien, dit-il. Allah seul peut le savoir. Ces gens ont tué au nom de la religion, mais ce ne sont pas des musulmans. L'islam est une religion de paix, martèle le cher. Nous sommes des boucs émissaires, reprend-il. On ne peut pas condamner toute une communauté à cause de quelques-uns. Gangs et djihadistes, attentats à la bombe ou à la grenade, règlement de compte. Eastleigh s'en le souffre. Les opérations coup de poing de la police kényane s'y soldent par des vagues d'arrestations. On parle de mauvais traitements, parfois d'exécutions extrajudiciaires, très souvent de corruption. Travailleur social, Georges Okode y vit depuis 20 ans. Il était là lorsque, pour la première fois, un minibus y a explosé. La semaine dernière, il a aussi failli se faire lyncher après qu'une mosquée a été attaquée. La lutte contre la radicalisation est au cœur de son travail.
À Eastleigh, on ne sait pas qui est Chebab et qui ne l'est pas, on ne sait pas. On nous dit qu'il y a des endroits ici à Eastleigh où les agents d'Al-Chebab recrutent pour envoyer les jeunes en Somalie. Parfois, quand on parle avec les gens, ils nous disent qu'il s'est passé tel ou tel truc. truc, qu'un de leurs amis a disparu, qu'il leur a dit que des gens lui ont proposé de partir en Somalie avec un bon emploi à la clé. Et en fait, une fois passé la frontière, ils leur disent qu'ils vont aux côtés de leurs frères de Somalie qui sont opprimés par le gouvernement kényan.
Les proches de ceux qui sont partis restent souvent muets par peur des représailles des Chebabs, mais aussi des mauvais traitements de la police qui s'en prend indistinctement aux Somaliens.
L'autre jour, la sécurité est arrivée ici. Ils ont perquisitionné toutes les maisons. Ils ont essentiellement pris les Somaliens d'origine et les ont envoyés à Kasarani. Ils les ont enfermés plusieurs jours. Ça ne fait que durcir le cœur de ces gens. Ce qu'ils ressentent, c'est que s'ils ont été traités si injustement pour quelque chose dont on n'a même pas idée, eh ben, ils vont répliquer. On a de plus en plus de gens qui rejoignent les Chebabs à cause de la façon dont le gouvernement gère le problème.
Alors Claude Guibal, dans ce quartier d'Islay, j'imagine qu'on ne s'annonce pas à l'avance, on ne donne pas rendez-vous à des gens.
Surtout, c'est un quartier qui est extrêmement compliqué à pénétrer pour quelqu'un qui n'est pas de ce quartier. C'est le quartier où se trouve essentiellement la diaspora somalienne, les gens qui ont quitté la guerre en Somalie. Islay, c'est grosso modo 350 000 personnes. Ça ressemble à un gros faubourg de Nairobi, sauf que les femmes y portent des voiles ou des niqabs, les hommes y portent la barbe.
Vous aviez un voile?
Non, moi non, j'avais pas de voile, mais je me suis pas vraiment baladée dans la rue à Islay parce que même les Kényans n'y rentrent pas eux-mêmes et donc un étranger est extrêmement visible. Donc c'est un quartier qui est extrêmement dangereux parce que perçu par les autorités comme un nid de Chebab et un quartier qui est extrêmement connu pour sa criminalité plus généralement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'avoir une porte d'entrée dans ce quartier, en l'occurrence trouver la bonne personne qui va pouvoir vous mettre en contact assez vite avec les gens que vous souhaitez rencontrer. Donc ça a été mon cas. J'avais déjà travaillé au Kenya. Je savais que je voulais un jour travailler à Islay. Donc ça faisait quand même 2 ans que je réfléchissais à la façon d'y aller un jour.
Et une fois sur place, on reste pas très longtemps au même endroit.
Il faut aller très vite. Il faut savoir où on va. Il faut éviter de trop se faire repérer. Dans la petite madrasa qu'on entend, où on entend les enfants au début de ce reportage. L'école coranique. Là, j'ai été vue par des gens dans l'embrasure de la porte. Donc, on comprend au bout d'un moment qu'il faut pas trop rester, partir assez vite. L'interview que vous avez entendue par la suite a été réalisée en voiture, en mouvement, de façon à justement pas non plus se faire trop repérer.
En voiture par sécurité pour vous, pour l'interlocuteur, pour les deux.
Pour les deux, mais je pense plus pour mon interlocuteur que pour moi-même, parce que mon interlocuteur est vu comme parlant à un étranger. Et cela est évidemment suspect. On ne sait pas qui je suis. C'est d'ailleurs un des gros problèmes quand on travaille sur les Chebabs et quand on est français, parce qu'il faut se souvenir que la France a une histoire assez triste avec les Chebabs. Ces deux agents de la DGSE qui avaient été enlevés en Somalie, à Mogadiscio, en 2009, alors qu'ils s'étaient inscrits dans un hôtel de la ville en disant qu'ils étaient journalistes. Un de ces deux agents a trouvé la mort l'an dernier dans une opération de sauvetage qui a mal tourné. Et donc, il est évident que quand vous travaillez dans les milieux, plus généralement sur les milieux radicaux, arriver avec l'étiquette de journaliste, c'est pas quelque chose qui est très pratique, tant les services de renseignement pratiquent, eux, à l'inverse, le mélange des genres, que ce soit avec les journalistes ou avec le personnel humanitaire. Donc, il faut montrer patte blanche. Et pour cela, j'ai dit à tous mes interlocuteurs que je travaillais, donc que j'étais journaliste, j'ai des traces visibles de mon travail sur Internet, j'ai fait savoir que je travaillais depuis longtemps au Proche-Orient et on m'a d'ailleurs discrètement testé sur mes connaissances sur le monde islamique, mes connaissances coraniques notamment.
C'est-à-dire,
un petit peu. On m'a demandé qu'est-ce que je connaissais, à quel point je connaissais l'islam, si je connaissais la shahada par exemple, si je parlais arabe,
La
profession de foi musulmane. C'est des petits signes que vous donnez. Je fais ce que je fais généralement, c'est-à-dire que je pense souvent que c'est en étant désarmé qu'on est désarmant. J'arrive pas avec mes gros sabots. Je fais généralement assez profil bas, tout en étant extrêmement vigilante à l'environnement. Je fais attention, mais j'essaie de pas donner l'impression que j'ai peur ou que je suis extrêmement méfiante. Il faut savoir donner des petits signes pour montrer qu'on n'est pas ce qu'ils croient qu'on est, tout en évitant d'apparaître beaucoup trop en confiance.
Il y a des quartiers où vous n'avez fait que passer devant et de manière masquée, cachée.
Oui, absolument, parce que Islay, donc est considéré comme le foyer, un des plus gros foyers de radicalisation et de djihadisme d'Afrique de l'Est. Il y a une mosquée à Islay qui s'appelle la mosquée Bilal, qui est considérée comme un des gros centres de recrutement des Chebabs. Mais il y a dans le quartier d'à côté qui s'appelle Majengo une mosquée qui s'appelle Poumouani Riyad, qui alors elle est je n'aurais pas pu m'approcher de cette mosquée. C'est effectivement le lieu de recrutement des djihadistes dans toute l'Afrique de l'Est. C'est valable pour le Kenya, donc la Somalie, la Tanzanie, l'Ouganda. Il y a là des prédicateurs qui sont extrêmement radicaux. La question, c'est de savoir pourquoi les autorités kenyanes n'ont pas fermé cette mosquée ou ne la contrôlent pas davantage. C'est difficile à expliquer. C'est à la fois parce que ça peut être un point d'abcès qui permet aussi de filtrer finalement et d'obtenir des renseignements, mais aussi parce que fermer cette mosquée et le faire à la méthode kenyane qui est extrêmement qui fait pas dans la dentelle, on va dire, risque d'avoir des conséquences. Pire encore, si cet établissement était fermé, on imagine les conséquences qui peuvent se produire au niveau sécuritaire au Kenya.
Claude Guibal qui rentre du Kenya, on a entendu vos reportages lundi dernier, on peut les retrouver sur le site franceculture.fr. Peaky Blinders de Nick Cave and the Bad Seeds, musique de la série Peaky Blinders diffusée récemment sur Arte, une série très remarquée. On part pour Bagdad.
Les soldats irakiens tirent des obus en direction des dernières poches de résistance tenues par des combattants du groupe État islamique.
Le secret des sources.
Vanessa Lecoureau est en ligne avec nous de Bagdad. Bonjour Vanessa.
Bonjour.
Cela fait une semaine, Vanessa, que vous êtes en Irak, pays en guerre, confronté à des attentats. Alors on ne va pas à Bagdad comme on va dans d'autres capitales du monde. C'est un reportage que l'on prépare beaucoup en amont, Vanessa.
Oui, c'est un reportage qu'on prépare beaucoup en amont, en effet, déjà dans le choix de la personne qui va nous accompagner au quotidien, celui qu'on appelle donc le fixeur. Donc tout ça prend beaucoup de temps pour savoir avec quel profil on va travailler, l'expérience de la personne avec qui on va travailler, parce que tout va dépendre, beaucoup de choses vont dépendre du profil de cette personne qui va nous accompagner. Ensuite, on étudie la situation sur le terrain, les combats quand on veut s'approcher des lignes de front, mais après ça c'est une préparation on va dire théorique, parce qu'il y a la réalité du terrain qui vous rattrape. Quand vous arrivez finalement à Bagdad, vous pensez que vous allez avoir le feu vert pour aller, par exemple, je dis ça parce que c'est pour le coup un exemple très concret que j'ai vécu, tout était calé, tout était déterminé pour qu'on aille à Tikrit, et le matin même de notre départ, on annule tout, on va plus à Tikrit parce que c'est trop dangereux, les autorités ont claironné avoir libéré la ville, elles l'ont pas visiblement très clairement libéré. Il y a à tout le moins ce qu'on appelle des poches de résistance dans Tikrit, donc finalement on n'a pas pu y aller. Donc malgré toutes les précautions qu'on peut prendre pour préparer un reportage, la réalité du terrain nous rattrape toujours, que ce soit à Bagdad d'ailleurs ou partout ailleurs.
Vanessa Lecoureau, comme pour le Kenya, donc vous nous parliez du fixeur, c'est un choix extrêmement important parce qu'il vous guide, il fait interprète, mais il est aussi un rempart, une sécurité lors des interviews.
pour le coup, moi, c'est même ma seule sécurité, puisqu'on a fait le choix avec les responsables de Radio France de ne pas partir avec une sécurité plus privée, comme certains journalistes peuvent le faire ici à Bagdad, c'est-à-dire une sécurité, une voiture blindée avec des hommes en armes autour de des journalistes qui je ne sais pas comment d'ailleurs, peuvent ramasser des témoignages dans ces conditions-là. Donc nous, on a décidé à l'inverse d'être beaucoup plus discret, de ne travailler qu'avec ce fixeur. Donc c'est effectivement la seule sécurité me concernant ici. Et elle est capitale parce que dans une situation comme celle de Bagdad, ça se joue à pas grand-chose parce que le danger, il est partout, il est dans la rue. Il n'y a pas de quartier, j'entendais Claude Dibal à l'instant parler de quartier très précis au Kenya et à Nairobi où elle était. À Bagdad, à vrai dire, le danger, il est partout, c'est la rue. C'est être trop présente, trop longtemps dans la rue. Donc le fixeur, il est là pour remarquer des déplacements suspects. Un homme qui a passé une fois, deux fois, trois fois au téléphone. Et puis en plus, sa conversation au téléphone n'est pas une conversation assez commune. C'est une conversation qui ressemble à quelque chose d'assez étrange. Peut-être des messages codés. Il se dit souvent à Bagdad que quand on entend un mot au téléphone prononcé par un homme au téléphone dans la rue, il est temps de partir parce qu'il appelle un kamikaze pour venir faire sauter une voiture ou se faire sauter lui-même avec une ceinture d'explosifs. Donc c'est nos yeux et nos oreilles, ce fixeur. Et effectivement, à Bagdad, le danger, comme il est partout, il faut qu'il soit d'une vigilance extrême pour faire attention à tous ces petits signes, tous ces petits détails qui peuvent être gravissimes si on n'est pas vigilant.
Oui, vous remettez un peu votre vie entre ses mains.
C'est absolument ça. C'est pas très confortable, mais c'est exactement le résumé de cette situation. C'est le moindre détail. Je me souviens d'un sujet qu'on a fait dans un petit magasin où on vend à peu près tout ce qu'il faut pour s'armer et pour aller sur le front, puisqu'on achète et on loue des gilets pare-balles à Bagdad comme on achète des croissants à Paris.
Ah bon ?
Donc on est dans ces magasins-là. Oui, véritablement. On est dans un de ces magasins-là et puis il y a un homme un peu suspect qui passe. Une fois, deux fois, trois fois, il est au téléphone. Il y a un deuxième homme qui arrive à ses côtés, et peut-être que c'est de la parano, mais toujours est-il que là le fixeur me dit, je n'aime pas cette situation, on est en lieu clos, on est dans un magasin, on ne peut pas sortir, on part maintenant, et tant pis pour l'histoire, ça n'est pas tout à fait fini. Évidemment que moi dans ces cas-là, profil bas, on suit celui qui connaît son pays et son terrain en l'occurrence.
Alors il y a Bagdad où je crois on reste très peu de temps dans la rue, hein, une quinzaine de minutes Vanessa, c'est ça ?
Oui, une maximum. Quinzaine de minutes, pas plus, parce qu'après, oui, on sent après que ça devient tendu, parce que la majorité des gens, et on le sent très bien, sont évidemment bienveillants à notre égard, mais on est dans une ville où effectivement, il y a effectivement encore et toujours des terroristes qui sont infiltrés. Il y a depuis deux semaines, trois semaines, la reprise des attentats à la voiture piégée à Bagdad.
Oui, il y a des attentats tous les jours à Bagdad, hein, Vanessa, il y a des attentats tous les jours ou presque.
Moi, j'ai entendu des explosions globalement tous les deux jours. Je suis là depuis une semaine et tous les deux jours, j'entends des voitures piégées qui explosent dans des quartiers chiites la plupart du temps, exclusivement d'ailleurs dans des quartiers chiites, très proches de l'hôtel là où je suis, une fois en sortant du musée de Bagdad. Et à vrai dire, quand ça explose, donc il y a évidemment le bruit, tout de suite la fumée. Et moi, l'occidentale, l'étrangère du groupe, je suis la seule à sursauter et les Irakiens rigolent parce que pour eux, c'est la vie quotidienne. Quand je dis qu'ils rigolent, c'est pas qu'ils méprisent cette situation, mais pour eux, c'est tellement anodin de vivre avec ce bruit-là et le bruit des ambulances qui arrivent dans les 30 secondes qui suivent.
Vanessa Lécoureau en duplex de Bagdad, vous reprenez l'avion pour Paris aujourd'hui. On se donne rendez-vous mercredi sur l'antenne. On a hâte d'écouter vos reportages en Irak, notamment sur France Culture et France Inter et toutes les chaînes du groupe. Merci beaucoup Vanessa Lécoureau en duplex de Bagdad. Mariette Darigrand, on dit dans notre métier que l'actualité a du talent. Et les trois femmes grands reporters à Radio France que nous venons d'entendre ont aussi beaucoup de talent. Et le journalisme de guerre se caractérise, Mariette, par une écriture particulière.
Oui, il y a une espèce de paradoxe très intéressant, d'ailleurs, du style, finalement, journalistique. C'est au moment où les journalistes sont le plus loin de leur du métier banal, enfin du métier, qu'ils trouvent une sorte d'écriture, il me semble, c'est l'hypothèse que je fais, au moment où ils sont en danger, ils trouvent une écriture particulièrement sophistiquée, particulièrement littéraire, par moment, hein, évidemment. Donc c'est un cas tout à fait intéressant pour réfléchir au discours médiatique. Et je me suis demandé comment ça se fait, pourquoi et comment. Et alors, il me semble, vous écoutez là, ça corrobore mon hypothèse, c'est que précisément parce qu'on est devant la mort, peut-être, eh bien, il faut que l'écriture soit sublimante. Il faut qu'à un moment donné, elle soit extrêmement tenue ou extrêmement lyrique, peut-être par moment aussi. J'ai été frappée par plusieurs formules qui sont revenues, qui sont littéraires. Alors, il y a aussi la question des grands modèles. Il y a pour les journalistes, hein, évidemment, Hemingway, il y a Malraux, il y a les prix Pulitzer, où ce sont des journalistes écrivains. Et puis certains, finalement, à l'occasion, je pense à Jean Hatzfeld, deviennent écrivains devant la guerre, devant la tragédie. Il n'y a que l'écriture qui peut, selon eux, témoigner de ce qu'ils voient. Alors ça pose, à mon avis, une question tout à fait intéressante, c'est celle de jusqu'où aller ? Hein, jusqu'où aller dans le sublime et jusqu'où aller dans l'anecdotique, puisque l'écriture littéraire vous amène à anecdotiser certaines choses. Donc si on reprend les exemples que vous avez donnés, enfin il y a eu deux exemples sur une statuette, on va faire un point comme un zoom sur une statuette à un moment donné, elle fait partie de la fresque et elle va montrer par un détail l'ensemble, où la madrassa, les chaussures d'enfants qui sont entassées, colorées, ça donne justement une couleur littéraire à votre propos, et on voit tout de suite de quoi il s'agit. On est dans la littérature, à mon avis, de guerre. On est dans la littérature, c'est très fort. Et là, la limite, la frontière, c'est justement de ne pas franchir le sentimentalisme et de... Je pense à un autre reportage que j'ai lu dans la presse écrite, où c'était pas une statuette que l'on montrait au Népal, mais c'était un jouet d'enfant, et qu'il a finalement flirté avec l'émotion un peu voyeuriste. Ça n'allait pas du tout. Donc, jusqu'où s'arrêter dans le littéraire qui va rendre le texte, je dirais, même s'il est oral, pittoresque.
Mariette Darigrand, le clin d'œil de l'émission signé Yacine Bouzard, Black Ops. Les fanas de Je tue ce console m'ont déjà compris.
Nous sommes avec reporter John pour le débrief de son reportage à Black Ops. John, bonjour.
Salut à tous, comment allez-vous ? Moi, ça va super bien.
John, je crois savoir que vous utilisez pour vos reportages le fameux viseur réflexe.
C'est vrai que je suis un très grand fan du viseur réflexe. J'ai énormément de mal à la base à jouer avec la N94 sans le fameux viseur réflexe.
Et vous avez bien sûr d'autres accessoires.
Mes accessoires silencieux, chargeur grande capacité et poignée ergonomique, hein. Lorsque l'on joue avec un fusil d'assaut, la poignée ergonomique est toujours intéressante, de manière à pouvoir mettre en joue le plus rapidement possible.
Reporter John, pour conclure, que retenez-vous de votre reportage à Black Ops 2 ?
De toute façon, il faut se dire une chose, c'est que sur cette map-là, il y a toujours une équipe qui spawn kill et une équipe qui se fait spawn killer.
Reporter John, merci.
Voilà le clin d'œil Black Ops. Alors on change totalement de sujet, Thibaut Henneton. Comme le dit le Parisien, sexe, drogue, canne-bière sur France 3.
Et quel beau titre ternaire. Depuis mardi, le débat enfle. Commence Caroline Bonacossais et Sylvain Merle du Parisien. Donc, plus belle la vie serait-il aller trop loin en montrant une scène d'amour à trois où les personnages inhalent un euphorisant ? Question. Mais d'abord, le contexte. Mardi dernier, il est 20h45. C'est après question pour un champion. Stéphane, l'ambulancier macho et la très affranchie Marine, pionne du lycée, se retrouvent avec le bel Antonio dans une chambre d'hôtel quand soudain, un pop.
Non mais je prends pas ce genre de truc.
Allez papy, lâche-toi, tu le regretteras pas.
J'ai pas besoin de ça pour m'éclater.
Vous avez bien entendu ce pop initial ?
Oui.
Oui, pop comme le bruit que faisaient en s'ouvrant les ampoules contenant un vasodilatateur, d'abord utilisé en médecine pour traiter certaines maladies cardiaques, depuis longtemps dévoyées ou sublimées, c'est selon, à des fins récréatives et sexuelles. J'ai nommé le Poppers, vous connaissez Frédéric évidemment.
Je ne vois pas de quoi vous parlez.
Le Poppers donc donne un coup de chaud et un coup de libido, mais c'est très fugace et ça ne sent pas très bon. Un plan à trois qui a bien lieu, comme le laisse entendre la musique qui continue sous moi, n'est-ce pas ? À base d'un produit qui dilate les vaisseaux sanguins, certes en vente libre, il n'en fallait pas plus pour déclencher une nouvelle tempête dans un verre d'eau avec édito outré du Figaro et appel au CSA. Pourquoi pas un éloge du godmiché, du sadomasochisme et du binge drinking ? La question se pose sérieusement. L'année dernière, pour ses 10 ans, Rémi Flimelin, alors encore directeur de France Télé, parlait de Plus belle la vie, phénomène français qui compte plus de 2000 épisodes et 4 millions de téléspectateurs en moyenne par jour, comme l'anti-Netflix par excellence, série créatrice de liens sociaux, à la différence de la plateforme de vidéo à la demande américaine, qui propose, je cite, de consommer des œuvres de façon individuelle. Et voilà comment l'on passe de l'individualisme au lien social, puis du lien social au triolisme sous stupéfiant.
Thibault Hinton, je fais comment pour parler d'Europe maintenant?
Débrouillez-vous.
L'actualité de la semaine à l'étranger, elle est européenne. Nous allons ce matin à Bruxelles retrouver Quentin Dickinson, correspondant de Radio France à Bruxelles et directeur des affaires européennes de Radio France. Bonjour Quentin.
Bonjour Frédéric et bonjour à tous.
Alors, actualité européenne, Quentin, aujourd'hui 9 mai, c'est la journée de l'Europe, un événement qui, il faut bien le dire, passe un peu inaperçu en France et ce n'est pas du tout le cas chez vous.
Non, et d'abord, si vous voulez bien, un petit rappel. Le 9 mai, aussi appelé ici la Saint-Schumann, fine allusion sans doute aux origines démocrates chrétiennes de bon nombre de pères de l'Europe, le 9 mai donc commémore ce jour en 1950 où le ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, a lancé un appel aux voisins de la France, et surtout aux Allemands, pour mettre sous une autorité commune les industries de guerre de l'époque, c'est-à-dire le charbon et l'acier. C'est cet aspect-là, rendre la guerre matériellement impossible, qui paraissait crucial en ces temps-là, mais aujourd'hui, nous savons que le dessein véritable de Schuman et de son conseiller Monnet, c'était la mise en place d'une architecture institutionnelle à nul autre pareil et qui prospère aujourd'hui encore autour du triangle Commission-Parlement-Conseil des ministres de l'UE. Alors, le 9 mai, si on ne le fêtait pas dans les trois capitales de l'Europe, à Strasbourg, à Luxembourg et ici à Bruxelles, on se demande bien où on le ferait, tant l'Europe, après avoir sombré dans l'indifférence des opinions, est aujourd'hui rendue coupable de tous les maux. Outre les inévitables discours de circonstance, un peu plus sobres cette année sans doute, en raison de la proximité des élections britanniques et quelques timides initiatives municipales sur le thème de l'Europe. Pour l'essentiel ici, le 9 mai, eh bien, c'est la journée portes ouvertes dans les principaux bâtiments des institutions de l'UE. Et là, même s'il fait beau, c'est chaque année un vrai succès de foule, surtout au Parlement européen, tant à Strasbourg qu'à Bruxelles d'ailleurs. On ne sait cependant pas si la vue d'un hémicycle vide encourage vraiment à aller voter aux prochaines européennes.
Alors Quentin, on a beaucoup parlé cette semaine encore des migrants, un défi pour l'Union européenne. Le journal Le Monde s'est demandé si l'Europe était insensible aux migrants venus d'Afrique. Il y aurait 80 000 personnes, 80 000 migrants en ce moment en Italie. Que vont-ils devenir? Quelle est la réponse de l'Union européenne?
Oui, le fond de l'affaire, Frédéric, c'est que l'immigration reste une compétence nationale de chacun des 28 pays membres de l'UE qui ne lâche que contraints et forcés la moindre parcelle de souveraineté. Voilà pourquoi il n'existe pas de véritable politique européenne de l'immigration, celle-ci se limitant à coordonner l'accueil des demandeurs du statut de réfugié politique au sens des Nations Unies. Et voilà aussi pourquoi, confronté à un afflux sans précédent de migrants clandestins venus principalement d'Afrique subsaharienne, l'Union européenne ne peut faire guère mieux que de parer au plus pressé en quelque sorte, c'est-à-dire d'appliquer le droit de la mer pour porter secours aux embarcations en détresse et tenter de recueillir tant bien que mal les dizaines de milliers d'individus qui échouent sur ses côtes. L'annonce du triplement des moyens à disposition de Frontex, vous le savez, c'est l'agence de sécurité des frontières extérieures de l'UE, ce triplement des moyens n'est certes pas un geste négligeable, mais cela ne préfigure en rien une politique pan-européenne d'immigration légale, réglementée, sélective, fondée sur les besoins prévisibles de l'économie de chacun des 28. Une telle politique viendrait également sans doute contrer le déclin démographique et le vieillissement certain de la population de l'ensemble des pays de l'UE, à l'exception notable de la France, dont les mesures natalistes paraissent, on peut le dire, plus efficaces qu'ailleurs.
Merci beaucoup Quentin Dickinson, correspondant de Radio France à Bruxelles. Merci à tous. L'émission se termine. Merci à nos invités, Ali Serrano, grand reporter à France Info de retour du Népal. Claude Guibal était avec nous. Claude Guibal, grand reporter et chef du service étranger de France Culture, qui rentre du Kenya. Vanessa Lecoro, qui était avec nous en duplex de Bagdad, grand reporter et spécialiste défense à France Inter. Voilà, trois femmes que vous n'avez pas fini d'entendre partout aux quatre coins du monde pour remplir leur mission d'information. Nos deux regards extérieurs de l'émission qui nous ont accompagnés et éclairés aujourd'hui, Mariette Darigrand, notre sémiologue au secret des sources, et Thibault Hinton pour les images et le web. Dans les coulisses de l'émission, les indispensables Mathias Mégy, Vincent Abouchard pour la préparation, la réalisation et le site franceculture.fr avec aux manettes aujourd'hui Nicolas Delmas. Le clin d'œil de la semaine était signé Yacine Bouzard. Merci à Quentin Dickinson que l'on vient d'entendre, correspondant à Bruxelles et directeur des affaires européennes de Radio France. Dans un instant, le journal de Oana Favenec, suivi de répliques. Auschwitz pour mémoire, Alain Finkielkraut reçoit Marceline Loridan-Evans. C'était Le Secret des Sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal, réplique. Bonne journée sur Culture.
J'avais déjà travaillé au Kenya, je savais que je voulais un jour travailler à Islay, donc ça faisait quand même 2 ans que je réfléchissais à la façon d'y aller un jour.
Et une fois sur place, on ne reste pas très longtemps
non,
au même endroit.
Aller,
hein.
Voilà, il faut aller très vite, il faut savoir où on va, il faut éviter de trop se faire repérer. Donc on comprend au bout d'un moment qu'il ne faut pas trop rester, partir assez vite.
Je me souviens d'un sujet qu'on a fait dans un petit magasin où on vend à peu près tout ce qu'il faut pour s'armer et pour aller sur le front, puisqu'on achète et on loue des gilets pare-balles à Bagdad comme on achète des croissants à Paris.
Ah bon ?
On est dans ces magasins-là. Oui, véritablement.